J'espère que vous allez bien. Oui, c'est la première fois en fait que j'évoque ce thème si sensible de la relation entre les parents et puis les intervenants. J'ai déjà fait ça, mais avec des enseignants, dans la fonction et la relation entre un pédagogue et puis des parents, mais dans le cadre scolaire. Jamais dans ce cadre-là. Et puis ça me ravit. Je suis bien content de faire ça. Vraiment bien content de parler enfin ensemble d'une chose pas simplement sensible, mais aussi qui est importante. Alors, je voudrais vous montrer plusieurs aspects dans la relation entre parents et intervenants qui sont à mes yeux importants. Il y a beaucoup de choses que je vais dire que vous connaissez. Il n'y a rien de tellement nouveau. Je ne cherche pas à révolutionner l'ordre des choses, vraiment pas. Juste à souligner parfois ce qui est beau, à montrer ce qui est fragile et à mettre en évidence ce qui est sensible. Dans les deux sens, dans le sens de parent à intervenant et dans le sens d'intervenant à parent. Je vais utiliser le mot soignant, ça ce serait plus tranquille pour moi. J'aime pas beaucoup maintenant, je prends le mot soignant. Dans le mot soignant, je mets tout, ok? Je mets les pédagogues, je mets les thérapeutes, voilà. Je mets tout le monde. Bienvenue dans ce monde-là. Et puis je me présente aussi en tant que papa. Je me souviens une fois d'une conférence que j'ai faite en Albanie devant un public de parents d'enfants avec handicap. Et à un moment donné, l'Albanie, c'est très codé, les rôles sont très codés entre les pères et les mères qui ne cohabitent pas, ou un pan public. Et à un moment donné, l'un d'entre eux arrête mon propos, et ses propos sont traduits par l'interprète, avec l'accent, on donne un petit peu ça. Le professeur, c'est très intéressant. Ça, c'est un mot dont j'ai horreur, un mot intéressant. C'est très intéressant, professeur, mais. Vous nous parlez de choses, mais vous-même, est-ce que vous l'avez l'enfant handicapé? Je me dis, j'ai quatre enfants et aucun d'entre eux n'a un handicap. Alors, professeur, comment vous pouvez nous dire des choses à nous parlant d'enfant handicapé si vous n'avez pas l'enfant handicapé? Je n'étais pas très bien. Je me dis, mais je n'ai pas d'enfant handicapé, mais avec mes quatre enfants, il y en a. Aucun qui ne m'ait dérangé. Et parfois, profondément, ils m'ont bousculé. Ils m'ont amené à des choses que je n'imaginais vraiment pas. Ils m'ont mis en dessous-dessous. Ils m'ont bouleversé. Je dis, professeur, donnez l'exemple. Par exemple, mon grand garçon avait 18 ans quand il nous a dit, à sa mère, à moi, que finalement, profondément, il était homosexuel. Si vous voulez faire taire cette albanaise, c'est absolument parfait. Alors là, cet homme, vous allez voir, on n'a pas tous la même notion. Cet homme s'est levé, il était assis, et il a retiré le chapeau, il a mis sur son cœur, il dit, professeur, là, ce que vous le dites, elle est vraie. Je lui dis, oui, bien sûr. Pourquoi? Ah, parce que parfois les professeurs ils disent des choses, mais c'est pour nous faire avaler des couleuvres. Là, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, professeur, je vous aime beaucoup. C'est ce que vous dites, le vrai. Je vous présente en mon nom, mais aussi au nom de tout le monde, toutes mes condoléances. Pour cet homme-là, mon fils était mort. Il n'était pas. Mais dans son registre, il était. Et je me suis dit que il était suivi après d'un autre homme qui m'a posé la question, professeur, c'est pour vous, c'est quoi le mieux? Avoir un enfant avec un handicap? Avoir une fille qui fait la poutre? Ou avoir un garçon qui est homosexuel? Et tout était mis sur un même piédestal. C'est à la fois faux. Et à la fois, c'est très vrai. C'est très vrai. Parce qu'à ce moment-là, je me sentais extraordinairement proche de ces parents qui ont des enfants avec handicap. Donc, je n'ai pas Mais bon sang, comme mes enfants m'ont mis son dessus-dessous, comme ils m'ont dépouillé de moi-même, comme ils m'ont conduit, mais par obligation, à lâcher des certitudes, des croyances, des vœux, des projets. Ça me rappelle cette phrase dont dit « Si tu veux faire rire le bon Dieu, parle-lui de tes projets. » Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et alors j'ai abandonné, et mine de rien, ça me rapproche énormément de cette expérience que vivent les parents qui ont des enfants avec moi. Je ne me sens pas vraiment, vraiment pas loin. C'est de ça dont on va parler. Bon, la relation entre un soignant et un parent, ça va dans les deux sens. Il y a, à mes yeux, 8 besoins qui sont fondamentaux, dont il nous faut tenir compte. Je voudrais vous les présenter, un peu vous en parler, et puis ils vous serviront aussi comme une forme d'évaluation, de grille d'évaluation pour vous, pour que vous regardiez où vous vous situez, à la fois en tant que parent, mais aussi en tant que soignant. Comment vous gérez dans la vraie vie, dans la vraie relation, ces 8 besoins-là. Le premier besoin est d'une simplicité désarmante, c'est « j'ai besoin d'être en sécurité ». Alors ça paraît extrêmement simple à dire, mais se sentir en sécurité est tout sauf facile. Si je suis un parent, vous venez chez moi, vous venez dans mon espace, vous venez dans ma famille, tout à l'heure vous avez traité de Marianne dans mon salon, dans la chambre de mes enfants, votre seul venu, pour vous c'est votre métier, pour moi c'est mon chez moi. Il y a un caractère qui peut être vécu comme étant intrusif. Et ça me fait peur, mais aussi peur que vous voyez qui je suis. Quand je suis dehors, dans votre bureau ou ailleurs, je peux encore faire une bonne figure, je peux encore faire une vision par quoi, je peux faire croire que je peux être gentil avec mon enfant. Quand je suis à la maison, des fois, je suis débordé par la réalité. Vous allez voir, des fois, ma nervosité, mon agressivité, mes élans, bien sûr, parfois aussi mes bons côtés, vous allez voir aussi parfois, vous allez voir chez moi. Et vous verrez que tout simplement, parfois chez moi, c'est pas comme chez vous. Parfois chez moi, c'est pas rangé, parfois chez moi, c'est pas beau, parfois chez moi, c'est pas plein d'objets jolis et mignons, parfois c'est comme ça. Pour vous, c'est quand même normal, pour moi, c'est pas si normal, pas si facile que ça. En face, vous allez aussi me regarder. Et dans votre regard, je peux lui lire parfois réellement comme une forme de peur. Parfois, vous allez avoir peur de moi. Parce que vivant au quotidien avec un enfant en difficulté, ça suscite chez moi des débordements d'émotions. C'est facile de venir, même si ce n'est pas vrai, 1 heure ou 2 heures par semaine me voir, voir mon enfant, c'est autre chose. Quand vous partez dans votre vraie vie, parce que je dis, vous allez bien, moi je reste. Je me souviens d'une lectrice qui me disait, mais des fois je me dis, mais cette famille, je m'en retire pas, je m'en sauve. Et je me dis, oh, les pauvres parents, ils vont rester avec cet enfant qui crie tout le temps. Et crier tout le temps, bien sûr, ça a un effet, bien sûr, ça a un impact sur moi. Et vous allez voir ça. Parfois, vous allez avoir peur de moi, de mes réactions à fleur de peau. Mais parfois, vous avez aussi peur pour moi, peur de ma précarité. Vous allez avoir peur que je m'écroule, que je m'effondre, que je ne tienne pas le coup, que je sois limite dans ce monde-là qui est le monde que je vis au quotidien, c'est pas un monde de faux-semblants, c'est pas un monde de paraître. Si je suis en colère, je suis en rage. Si j'en ai marre, on est ras-le-bol. Si je suis un peu agacé, je suis à bout. C'est jamais politiquement correct. C'est toujours puissant, toujours fort. Moi aussi, je vais avoir peur de vous. Moi aussi, je vais avoir peur de regard que vous allez porter sur moi. Bien sûr, de votre jugement, bien sûr, entraînez-vous. Ce premier sentiment, qui est le sentiment de peur, il est normal. On ne peut pas ne pas avoir peur. Ce que les parents ne savent pas, c'est que la peur, elle est dans les deux camps. Elle est dans les deux camps. Ça, les parents ne savent pas ça. Et les parents croient qu'il y a eux qui ont peur. Bien sûr que non, ça ne marche pas comme ça. On a peur. On a peur. Parfois, on va jouer à être sur des grandes gessasses et ont un grand manteau qui cache nos gessasses. Mais si vous retirez chez SAS, je suis comme un petit intervenant qui est là, qui ne sait pas très bien comment s'y prendre, qui ne sait pas quoi dire, qui ne sait pas comment comporter. Alors on joue. Mais en réalité, souvent on a peur. Dans le mouvement de peur, il y a deux comportements qu'on peut souvent voir chez les parents, et qui sont des comportements normaux quand on sent l'insécurité. Au début, c'est comme ça. Le premier mouvement normal, c'est un mouvement qu'on appelle de symbiose. Je vais essayer d'être un bon parent. Je vais vous regarder arriver, je vais d'abord vous voir, parce que quand je ne vous regarde pas, je vous scanne. Mais c'est vrai, je vous scanne. Il ne me faut pas une heure pour regarder comment vous arrivez chez moi. En une seconde ou deux secondes, je sais comment vous êtes. Le ton de votre voix, le regard que vous avez, la façon de vous habiller, je sais comment vous arrivez. Et généralement, je vais essayer de coller au plus près à ce que je peux imaginer que vous attendez de moi, à ce qu'il faut que je fasse, à comment il faut que je sois. Alors je vais coller à vous. Vous direz, vous penserez, comment ce parent est charmant, tout à fait charmant. Eh bien, je commencerai à être intéressant pour de vrai, pour vous en tant que parent, quand je deviendrai chiant. Un parent d'enfant en dialecte handicap, c'est chiant. Quand je dis chiant, ça veut dire dérangeant. Si ça ne vous dérange pas, si en tant que parent, en tant que père ou mère, je ne vous dérange pas, ça veut dire que je retiens quelque chose. Je ne le montre pas, je n'ose pas. C'est comme avec un enfant. Le prototype même d'un enfant, c'est d'être dérangeant. Un enfant qui ne dérange pas et un enfant qui présente un souci. Le problème, c'est qu'il ne pose pas problème. Un parent, pardon de vous le dire aussi directement, un parent d'enfant handicapé qui ne pose pas problème, c'est le problème. Il doit nous poser problème. Il doit nous déranger. On doit être impacté, on doit être touché, j'y reviendrai après. On doit être, des fois, bousculé, on doit être bouleversé. On doit modifier nos façons de penser, nos façons de voir. On doit être dans cette dimension-là. D'être tout d'un coup comme en déséquilibre. Alors même, je reprends qu'un des schémas de défense courant chez les parents, c'est d'essayer d'être devant nous d'assez bons parents et de coller à une forme d'image. On appelle ça, je reprends, le schéma de symbiose. La seconde façon de pouvoir faire à l'aide d'un soignant, si je suis un parent, alors même que j'ai peur, c'est de me mettre le plus possible en retrait. C'est-à-dire en retrait, quand je dis en retrait, c'est-à-dire l'effort pour ne pas être vu. Je vais des fois venir comme me lisser. Si vous saviez comme ce mot est un mot qu'on peut vraiment employer ici, à cet endroit-là, l'effort fait pour me lisser, pour que parfois mes sentiments négatifs, que je vis comme négatifs, ne se voient pas, pour que mes pensées, que je vis comme négatives, ne se voient pas, pour que mes comportements, que j'estime inadaptés, ne se voient pas. Je me lisse. Je lisse et ma façon de m'exprimer, je lisse et mon comportement, comme s'il ne fallait qu'il n'y ait aucune aspérité qui dépasse. Je suis un parent lisse. Dans cette lissitude, c'est ma façon d'essayer de me trouver avec un minimum de sécurité dans le lien avec vous. À la fois cette symbiose qui fait que je vais comme accrocher, coller aux soignants, ou à la fois cette forme, façon de demeurer avec une lissitude, chaque fois en retrait de ce qui peut se passer. Vous savez, quand c'est comme ça, c'est comme si le parent était là, mais vous ne pouviez pas me saisir. Je suis devant vous, mais vous ne me touchez pas. Des fois, vous pouvez mettre votre main même sur ma peau, c'est comme s'il y avait toujours un millimètre entre votre main et ma main. Vous ne m'atteignez pas. C'est ça qu'on appelle ce schéma de retrait. Façon de ne pas être trop touché. Dans ces deux façons de faire ou de voir, on peut comprendre et voir comment un parent, des fois, peut se sentir normalement en insécurité. Je reprends le mot normalement en insécurité. C'est ce que vous verrez après, peu à peu, quand vous mettrez le mot confiance et va s'installer au fur et à mesure. Mais celle-ci ne va pas de soi, ne pas donner tout ça en soi. Donc, premier besoin qui est important, évident, mais parfois on oublie, c'est ce besoin de sécurité. Le deuxième besoin qui va apparaître, et on va changer un peu de monde et d'univers, en tant que parent, c'est vrai aussi en tant que soignant, j'ai besoin d'être validé. J'ai besoin d'être vu, j'ai besoin d'être regardé, j'ai besoin d'être entendu. J'ai pas besoin que vous acceptiez ce que je dis. J'ai pas besoin que vous partagiez mon point de vue, je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai besoin de vous voir, et de vous voir me regarder, me prendre en compte. Pour bien comprendre la validation, qui est ce besoin-là, on peut prendre son contraire, le fait d'invalider quelqu'un. Le fait d'invalider quelqu'un, c'est le fait de ne pas le considérer, de ne pas même le regarder. Imaginons que je sois ici devant un groupe classe, okay, que je sois un enseignant, et que j'ai devant moi 30 élèves. Si je choisis parmi ces 30 élèves qui sont là, l'un d'entre eux ou l'une d'entre ces 30 élèves-là, et que peu à peu je l'invalide, que je fais comme si dans mon regard il n'existait pas, je vais peu à peu le mettre dans une forme d'emprise par rapport à moi. C'est une façon de venir l'humilier en l'excluant. L'intérêt de cette façon de procéder-là, c'est que peu à peu, je vais l'installer dans une position de bouc émissaire, je vais le faire rire le groupe classe à ses dépens, et ainsi, j'assure un contrôle social sur un groupe classe juste en invalidant une personne. Vous n'imaginez pas la puissance de ce levier-là. Si je veux exercer un contrôle social ou sur un groupe, ou sur une famille, ou sur une personne, le fait de l'invalider, vous ne trouvez pas plus puissant comme levier pour ce faire, parce que vous excluez la personne. Quand on voit l'invalidation, on voit de la même façon alors l'important de valider. Parfois, c'est tout bête, c'est tout simple, c'est voir que quelqu'un a changé de coiffure, voir que quelqu'un, c'est tout bête, j'avais des cheveux jusque-là la semaine dernière. Alors, je donnais une conférence l'après-midi devant des enseignants, j'avais des cheveux jusque-là, j'étais pas très loin, j'étais à Genève. Et après ma conférence, j'ai fait le coiffeur. Il ne m'a pas loupé. Le soir, je fais une deuxième conférence, là devant des parents. Le directeur, qui m'avait accueilli durant l'après-midi, avait été vraiment tout à fait adorable avec moi. On avait pris un temps ensemble, lui et moi, pendant une heure entière. Vous ne connaissez pas. Et le soir, j'arrive avec une amie, la conférence à 8h, j'arrive à 8h25 devant la salle où la conférence avait lieu. Et j'arrive, il est là devant la porte, visiblement anxieux. Je lui demande « Bonsoir, ça va ?» Il me dit « Bonsoir, monsieur dame. » Il me dit « Oui, non, ça va vraiment très bien. On a juste un petit problème. » Je lui dis « Vous avez quel problème ?» On attend le conférencier. Et c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Mais il était bien sûr après tout à fait confus, ce que j'ai adoré. Mais c'est vraiment ces petites choses-là. J'étais lundi, parce que on voit ça dans toutes les strates. J'étais lundi à Genève dans une grosse entreprise. Et je devais rencontrer le directeur général et son adjoint pour faire un compte-rendu d'audit que j'avais réalisé il y a 15 jours. C'était un moment important. J'y vais. Et je suis devant le DG, donc son adjoint. Son adjoint, j'avais vu il y a 4 ans en arrière. Et ce type, j'avais été mal à l'aise devant lui. Vraiment. Quand il m'avait regardé, il m'avait scanné et il m'avait jugé. Pas de costume, pas de cravate, pas de chaussures hyper brillantes, bref, pas génial. Et là, je le vois lundi. Et cet homme, lundi, ne m'a pas scanné, il m'a regardé. C'était très différent. Visiblement, je me suis dit, tiens, le DG a déteint sur le DGA. C'est une chose très heureuse, le DGA l'aime très bien. Et je lui dis à la fin, vous savez, je vais vous dire une chose plus personnelle, je lui dis bien sûr, je vous en prie. Je lui dis, voilà, il y a 4 années, je vous avais vu et je me suis senti scanné. Aujourd'hui, je me sens regardé. Vous savez, changer un comportement, c'est facile. Changer un regard, c'est remarquable. Merci. Quand je fais ça, je valide quelque chose que j'ai vu. Encore faut-il le voir et encore faut-il oser dire ce que je vois. Ce sont des choses toutes simples, mais vous n'imaginez pas combien c'est important, ces choses toutes simples. C'est le deuxième besoin, valider quelqu'un. Troisième besoin, il est un peu surprenant parce que parfois on nous apprend le contraire, la similarité. La similarité. On a appris parfois dans les écoles, dans nos écoles de formation, les parents ne savaient pas ça, qu'il faut garder sa distance, qu'il faut ne jamais mêler le perso et le pro, que les émotions sont interférentes et qu'elles nuisent au travail que nous pouvons effectuer. Toutes ces choses-là, qui sont dans bien des cas, juste des défenses, qui ne correspondent pas à la vérité, pas à la réalité. Dans la vraie vie, dans la vraie rencontre avec un parent, il n'y a pas de monde, c'est pas vrai. Il n'y a pas le monde du sachant et le monde de l'apprenant. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une similarité. Il y a quelque chose qui est commun. Ce n'est pas parce que je ne suis pas parent d'enfant handicapé que je ne peux pas te comprendre. Ce n'est pas vrai. Parfois, je peux, par ces processus-là, juste te comprendre de l'intérieur. Comprendre un parent de l'intérieur, c'est le rejoindre. Souvent, alors, on est triste. Comprendre un parent de l'extérieur, souvent, on est intéressé. Entre un parent qu'on trouve intéressant et un parent qui nous rend triste, pour ma part, il n'y a pas photo. Je veux être triste. Je ne veux pas être intéressé par un parent. Je veux être triste dans cette rencontre-là. Pour ce faire, je vais utiliser la similarité. Je vais rapprocher notre expérience à lui de celle que moi aussi j'ai pu faire. Moi aussi j'ai eu des enfants. Moi aussi, parfois, ils m'ont bousculé. Il ne s'agit pas de nous mettre en comparaison. Ce n'est pas une compétition entre toi, parent, et moi. Ce n'est pas qu'il y a plus gros malheur. On n'est pas du tout là-dedans. Pas du tout. Mais avant d'être un soignant, je suis déjà un père, une mère, ou un homme, une femme. Avant d'être un parent d'enfant handicapé, tu es déjà un père ou une mère, tu es déjà un homme ou une femme. On a déjà ça en commun. Il y a cette similarité-là. Vous n'imaginez pas combien parfois, pour des parents en difficulté, c'est tellement heureux parfois de nous entendre parler aussi des choses qu'on a rencontrées, notre parcours de vie. Parfois, quand une éducatrice de 40-50 ans raconte les soucis qu'elle a eu avec sa fille quand elle avait 7 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, quand elle raconte des fois en bladant, ok, il ne s'agit pas de distraire, mais n'imaginez pas le bien que ça fait pour un parent de rencontrer une similarité. De dire, waouh, elle a traversé des choses aussi qui l'ont secouée. Elle a pleuré aussi, elle a eu mal aussi. Elle a failli lâcher aussi. Des fois, elle a failli se séparer aussi. Elle a failli envoyer son enfant paître aussi. Elle a été en rage aussi. Elle a, dans cet échange d'expériences, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement heureux, d'extrêmement puissant. Je me souviens d'un de mes patients qui m'avait dit un jour en arrivant, Jean-Luc, je suis au plus mal. Je n'avais pas vu depuis 2 ans. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, ben, ma vie est foutue. Il a le même âge que moi. Ma vie est foutue. Je lui ai dit, mais pour quelle raison? Il m'a dit, parce que j'ai eu un drame dans ma vie il y a 1 an, et depuis ce moment-là, depuis ce drame-là, je ne vis plus véritablement, je me suis enfermé chez moi. J'ai fermé tous les volets, ma femme et moi ne voyons plus la famille, ni les amis, ni personne. On ne voit plus personne, on est replié. Puis il m'a dit, dis-moi ce qui t'arrive. Mais j'ose pas te le dire, mais dis-moi, mon garçon aîné est homosexuel. Il dit, on a déjà parlé avec un autre homme qui a la même expérience que toi. Il me dit non, oh non, 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 oh non, jamais. Je lui dis, ben, trop tard. Il me dit, pourquoi trop tard? Parce que j'ai vécu ça. Là, je le dis tous les jours. Et là, je lui ai raconté comment il nous l'a dit, sa blancheur, comme il s'est effondré devant nous, la peur qu'il a eue de mon regard, la crainte qu'il a eue que je le rejette, l'impact de notre couple, comme on l'a dit aux frères et sœurs, comment depuis mon lien à lui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Comment maintenant le premier qui touche un seul homo, je le rentre dedans? Comment mes ailes de sauveteur d'homo sont à part aux instants? Comment je me suis rapproché de lui? Comment c'est beau? Et vous venez de me dire que c'est en dure une heure. Vous m'avez dit, Jean-Luc, je m'en vais. Je lui dis, mais attends, c'est pas fini. Je lui dis, pourquoi tu t'en vas? Il me dit, je m'en vais. Et pourquoi tu t'en vas? Je lui dis, vous allez ouvrir les volets. Et là, mon intervention n'était pas heureuse parce que je suis un grand thérapeute, on s'en tamponne, juste parce que tout d'un coup, il y avait une expérience, une similarité entre lui et moi. C'est ça qui a fait la rencontre et c'est ça qui a aidé. Ça, c'est très heureux. C'est le troisième besoin. quatrième besoin s'inscrit dans la même lignée. Quelque chose qui est aussi très très important. En tant que parent, j'ai besoin d'avoir un impact sur vous. C'est-à-dire, j'ai besoin de savoir que ce que je vais vous montrer ou ce que je vais vous dire va non seulement, vous allez le valider, mais ça va modifier quelque chose chez vous. Vous allez courber vos certitudes. Vous allez infléchir votre façon de voir. Vous allez modifier votre comportement avec moi. Si je suis en colère pour un point, vous allez m'entendre et entendant, vous allez adapter votre comportement. Si je suis triste, si je vous raconte que j'en peux plus, que mes nuits sont vraiment des enfers, des fois je suis à bout, que j'ai qu'une envie, c'est de remettre la clé à sa place et puis de m'en aller. Et quand je vous le dis avec tellement de détresse, parce que là, où j'en suis, je ne peux pas aller plus loin que ça, et qu'en face, vous sentiez votre gorge trembler, vous voyez vos yeux perler, et vous sentiez en vous une tristesse qui vous envahit, je vous jure que pour moi, c'est bon. Vous direz, mais il ne faut pas pleurer. Mais vous direz en face, si vous avez cette assurance-là, laissez-moi pleurer. Justement, je pense à une de mes patientes qui me disait il y a quelques temps, qui elle-même est une enseignante en éducation précoce, qui me disait, mais moi je veux pleurer. Moi je veux avoir mal. Moi je veux quitter parfois une famille en ayant le ventre qui me remue. Je veux pouvoir rentrer chez moi et avoir peur. Je veux ça. Je ne veux pas qu'on me retire ça. Je veux vivre ce que je travaille. Je ne veux pas trouver mon travail intéressant, je m'en fous. Je ne veux pas que mon travail m'intéresse. Elle disait ça. Et j'étais en face d'elle, je riais. Mais elle disait, pourquoi tu te moques de moi? Et parce que je pourrais signer tous tes propos. Moi non plus, je ne veux pas ça. Je veux avoir mal. Je veux avoir peur. Je veux être touché. Hier, j'étais dans mon cabinet, une de mes patientes devant moi, qui a une fille en grande, grande difficulté, parce que son papa est un homme en bipolarité, qui va vraiment très mal, et qui met la petite fille en grande difficulté, les deux sont séparés. Et devant moi, elle appelle la grand-mère de la petite fille, et même en parleur, juste pour lui dire que, franchement, je suis inquiète pour ma petite fille, à ma fille, ta petite fille, je suis inquiète, à mes yeux, elle est en danger. À mes yeux, elle est vraiment en danger. Elle explique les comportements de danger. Et la grand-mère lui répond, tu as raison. Il faut vraiment qu'on change la monture des lunettes. Et j'étais là. Et j'étais terriblement confus d'entendre ça et de me rendre compte de ce que vit ma patiente. De combien les grands-parents de sa petite fille sont prêts à sacrifier et l'ex-bru et la petite fille pour couvrir leur fils qui est en difficulté et le protéger, y compris en mettant en grande difficulté ces deux personnes-là. J'étais pas simplement outré, j'étais blessé. Je suis rentré chez moi, j'en ai eu pour une heure à m'en remettre, une heure à me récupérer. Tellement, des fois l'amour est beau, mais des fois l'amour, cet amour-là n'est pas aussi beau que ça. Et je veux ça. Je veux avoir mal pendant une heure. Je veux rentrer chez moi mal. Ça ne va pas me prendre toute ma soirée et ma nuit. Mais je veux ça. Je veux me laisser impacter. Si, en tant que soignant, nous ne laissons pas impacter, si la colère d'un parent ne nous impacte pas, alors le parent va augmenter la colère, va devenir agressive, va se transformer en rage et parfois en rejet. Si la tristesse qu'il éprouve ne nous touche pas, ne nous impacte pas, ne vient pas, nous aussi, nous faire jaillir des larmes, ou dedans ou dehors, alors le parent peut rentrer dans une forme d'impuissance. Si sa peur, nous ne la recevons pas, si nous n'en tenons pas compte, alors elle peut devenir une forme d'angoisse. Si la joie qu'il éprouve ou qu'elle éprouve, tout d'un coup, nous ne la recevrons pas, nous demeurons lisses devant cette joie-là, ce qui parfois peut nous arriver, alors cette joie, on apprend à la comprimer, à la réprimer. Cache ta joie et je dissimule l'accès à ce plaisir-là, comme si vraiment, notamment, il n'y avait pas de place ici. Donc, toute notre façon d'accepter d'être impacté par un parent va orienter énormément la permission du parent de pouvoir nous montrer ou pas nous montrer. Ah oui, c'est un métier de dingue. Oui, c'est un foutu métier de merde, si vous voulez. Juste c'est le vôtre. Et en ce sens-là, il est vraiment magnifique. Vraiment, je redis combien, pour ma part, je veux être triste, je veux pleurer, je veux crier, je veux ça. Sors, je suis devant vous. C'est pas tout facile, bien sûr. Non, avant de vous voir, bien sûr, j'ai la trouille. Bien sûr, le jour où j'aurai plus la trouille, j'arrête. C'est la même chose. Cinquième besoin. J'ai besoin, en tant que parent, mais c'est vrai aussi en tant que soignant, de pouvoir parfois m'appuyer sur quelqu'un. J'ai besoin de pouvoir prendre appui sur vous. J'ai besoin parfois d'avoir votre épaule pour me laisser aller. Il y a des situations parfois, en tant que parent, j'aimerais juste, quand vous arrivez, non, si on n'y arrive pas, vous faites peu ou pas, peu importe, c'est pas. Que je vous dis que vous ne devez pas le faire, juste vous pouvez le faire, ce qui est très différent. Une fois que j'aimerais que vous arriviez comme ça, juste m'écouter dans vos bras et vous aussi aller à pleurer et sentir juste comme ça que vous prenez dans vos bras et que vous me portez un moment. C'est rien, ça ne va pas durer, c'est pas grave, je ne suis pas en dépression totale, je suis pas en train de m'écrouler, juste je pleure en m'appuyant sur vous. Ce besoin des parents de pouvoir. Même un court moment, même un court instant, juste prendre appui sur quelqu'un, que quelqu'un, j'aime bien marcher quand on me porte, que quelqu'un vienne et me porte. Cette phrase-là, c'est une phrase d'une de mes deux filles quand elle était toute petite, et que ma mère m'a amenée se promener, et ma fille lui a dit, Maman, je ne veux pas me promener. Ma mère lui a dit, Mais je croyais que tu aimais bien marcher. Elle dit, Oui, j'aime bien marcher quand on me porte. Et cette phrase, vraiment, elle m'est restée, parce que je trouve que c'est joliment dit, mais c'est tellement vrai. Des parents, parfois, peuvent marcher quand on les porte, si on les porte. Les porter, ça signifie vraiment, je reprends, pouvoir, des fois, accepter à un moment donné, qu'ils s'appuient sur nous. Tellement de parents, mais il n'y a pas que les parents, hein, on fait tous comme ça aussi. On a tellement, des fois, appris à faire tout seul, à se débrouiller tout seul. Être notre propre tuteur de développement. Par exemple, combien de fois en arrivant chez nous après cette soirée, moins d'entre nous vont, alors qu'ils ont été un petit peu touchés sur ce point-ci, celui-ci, celui-là, celui-là, combien d'entre nous vont pouvoir rentrer à la maison, dire à son conjoint, écoute, je voudrais te parler. Tournier a dit un truc là, waouh, m'a touché. Il m'emmerde, mais il m'a touché. Je me suis rappelé ça et ça. Combien d'entre nous allons pouvoir faire ça ce soir? Juste en rentrant. Juste prendre la main d'un conjoint. Juste appeler une amie. Juste appeler une soeur. Juste appeler quelqu'un pour juste montrer. Parfois, on n'y pense même pas. Et quand on y pense, on dit, oh, je ne vais pas l'embêter avec ça. Ça ne sert à rien. Okay? Et on fait tout seul. On sait très bien faire tout seul. Et même notre métier. Souvent, les enfants qui ont appris ça deviennent après d'excellents soignants. Parce qu'ils ont vraiment appris à faire tout seul. Alors, ce n'est pas gênant, ils savent très bien faire, c'est une vieille et longue habitude. À la place, souvent, on va arriver, prendre un verre de vin, manger un peu de chocolat, avoir une réponse sensorielle, à la place d'une réponse relationnelle. Et on sait très bien faire ça, très bien. On sait aussi très bien parfois donner plus facilement que recevoir. Là, ce que je vous montre, c'est ça. C'est comment parfois on peut proposer à des parents juste de s'appuyer un moment sur eux. À l'instant où je vous parle, j'ai reçu un SMS juste à 19h59, une patiente qui me dit Jean-Luc, je suis à bout, j'en peux plus. Je ne sais pas si je vais y arriver. Est-ce que tu peux m'appeler demain? Enfin, est-ce que tu peux m'appeler? Je lui dis, là, ce soir, je ne peux pas. J'ai beaucoup de patients devant moi, mais probablement demain, je vais pouvoir le faire. Okay? Et quand elle fait ça, à un moment donné, elle vient s'appuyer sur moi, elle vient prendre appui sur moi. Des fois, c'est fait pour moi, décide pour moi, sache pour moi, intervient pour moi. Et franchement, faites-le, acceptez ça. Parfois, accepter pour un parent, ça n'est pas le dédouaner, mais vraiment pas. Ça n'est pas le dévaloriser, mais vraiment pas. C'est juste, à un moment donné, prendre le relais d'un parent. Ok, je vais faire. plus vous permettrez ça à un parent, plus après, il sera à même de pouvoir reprendre après le fardeau qui est le sien, puisque c'est de toute façon un fardeau. On a le droit de faire ça. Dans la relation, c'est un des besoins fondamentaux. Tout comme le sixième besoin, lui aussi fondamental. J'ai besoin, tout ce que je vous dis là, on peut le voir dans les deux sens à chaque fois. Là, je vois un seul sens, mais c'est évident pour moi qu'un intervenant, un soignant, a tout autant besoin dans son métier de pouvoir parfois s'appuyer sur quelqu'un en interne, dans son équipe, dans le cadre de supervision, mais souvent aussi en externe, auprès d'un conjoint, auprès d'une amie, auprès d'un ami. Ce besoin demeure le même. Il n'y a pas une seule journée, pas une seule journée où je ne rentre chez moi, ou en cours de journée, je n'aille chercher quelqu'un sur qui m'appuyer. Ce qui me fait durer dans le temps, c'est que je me permets, depuis maintenant quelques années, de prendre appui sur quelqu'un. Combien de fois je suis sorti en n'étant pas bien, en étant mal, malheureux ou en colère, et j'appelle une compagne, j'appelle un ami pour pouvoir m'appuyer sur quelqu'un. Ça sert à ça, à continuer plus longtemps encore. Je disais donc, sixième besoin, pareillement fondamental, on l'a commencé un peu à l'évoquer, j'ai besoin parfois, j'ai profondément besoin que parfois quelqu'un prenne une initiative pour moi. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est-à-dire en l'occurrence le soignant, l'aidant, parfois, il est détecté chez moi un besoin. Il est vu, il est senti, il est perçu de quoi je pourrais avoir profondément besoin. Et que, sans que je lui demande, sans que je lui fasse aucune formulation à ce propos, il répond à ce besoin. Je vais prendre des exemples très perso pour vous montrer comment c'est tout simple, mais des fois tellement significatif. Je parle depuis 6 mois du fait de m'inscrire à un cours pour apprendre à piloter une moto, un impatient premier moto. J'en parle, mais je fais rien. Mon anniversaire avait lieu il y a cela un mois. Ma compagne est allée dans un office de moto, m'a inscrit. Elle m'a emmené les papiers pour commencer. C'est rien. C'est absolument rien. Okay. Mais comment elle a su? Comment elle a su? C'est ça qu'il fallait faire. Autre chose où je la vois à terminer pour moi, j'ai horreur d'acheter des pantalons. J'ai horreur de ça. D'accord? J'aime pas, j'y vais pour. Ok. Je lui ai rien demandé, je lui ai rien, jamais demandé. Elle a repéré ma taille, qui change peu à peu. Elle a repéré aussi, je ne vois pas comment, mais elle a repéré. Un jour, bien sûr. Elle va, elle m'amène des têtes, et chaque fois qu'ils sont pile poil. Oui, c'est rien. Oui, c'est 3 fois rien. Mais ça, ça me bouleverse bien plus qu'un week-end. Où que ce soit. Pas tant le prix, je m'en fiche de ça, mais le geste, la pensée, la façon de percevoir mon pain, ma fragilité, de me devancer, hop, de m'offrir ça. C'est exactement ça dont je parle, quand je dis qu'on a besoin, parfois, que l'autre prenne pour nous une initiative. En venant, j'appelais une de mes grandes amies, qui elle-même fait le même métier, qui bosse dans un SEI. Il me racontait une situation où elle était avec une maman qui avait un enfant avec autisme. Et que cet enfant, depuis des mois et des mois, elle n'y arrivait pas, elle tournait en rond cette maman, elle s'agaçait, s'énervait, et elle allait voir comme ça 1000 thérapeutes et rien n'aboutissait réellement. Et mon amie, au bout de quelques temps, quand même, ça a pris quelques mois, mais pas trop, 2-3 mois, a décidé d'elle-même de se rendre dans un centre thérapeutique de jour. Après contact, je me sens, a rencontré l'équipe, après a emmené la maman avec l'enfant, et puis après est venue aux premières séances, elle a été là. Et cette femme lui a dit, il y a peu de temps, franchement, hein, je vous remercie, c'est ça qu'il fallait faire. Et l'enfant, qui ne parvenait pas à se séparer de sa mère quand elle le laissait en garderie ou ailleurs, cet enfant, au bout de 3 semaines, a réussi ça. Eh bien, quand cette maman dit à mon ami vraiment merci beaucoup de ce que vous avez fait, elle ne la remercie pas pour les compétences, c'est pas vrai. Juste pour avoir repéré le besoin qui était tellement présent et d'y avoir répondu alors même que personne, ni la maman, ni l'enfant bien sûr, n'en faisait référence. Elle m'a dit, avant je faisais ça aussi. Mais avant je le faisais trop vite. Je le faisais pour moi et les parents refusaient. Vos solutions, quand elles sont bonnes, c'est super. Mais quand le parent n'accroche pas, l'appel à faire, hein, l'appel à faire. Tiens, ça aussi, c'est un point important. Quand je parle de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, j'ai souvent rencontré chez nous, soignants, là, pas chez les thérapeutes, parce que nous, on n'a pas ce droit-là, pas chez les psys, mais ailleurs, oui, beaucoup, quand parfois quelqu'un vient et puis se confie à nous, quand il nous raconte ce qu'il vit, quand il nous montre sa détresse, quand il nous montre le niveau de rage qu'il a ou de ras-le-bol qu'il a atteint. Okay? Souvent, j'ai entendu chez les soignants, souvent, il faut consulter, il faut voir quelqu'un. Je vais vous orienter vers quelqu'un. Mais bon sang, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quand un parent se confie à vous, c'est qu'il vous choisit, vous. Ok ? Aidons quelqu'un. D'accord, mais pas le parent, le soignant. Pas le parent. Aidons le soignant à accueillir. Aidons le soignant à entendre, à ne pas partir, à ne pas se défoncer. Parce que c'est lui qui est choisi. C'est à lui qu'on raconte des choses. Donc vraiment, c'est une défense, au moins en France, très trop courante, que de se défiler en orientant. N'orientez pas. Quand l'information qui vous est donnée est faite sur une gamme de grande détresse, n'orientez pas. Vraiment, restez présent, restez là. J'étais au 7e de loin. L'initiative, c'était bien là. Je glisse maintenant. 7e besoin, plus de. Il reste combien de temps encore ? Un quart d'heure ? Ça va. 7e besoin, plus que deux après, je ne compte pas autre chose. J'ai pareillement besoin, c'est aussi important, de me définir par moi-même devant vous. Ce n'est pas parce que je suis soignant, que je viens d'un SEI, que je suis le délégué du SEI. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études, que je suis quelqu'un qui suis expert et qui sait. Ce n'est pas parce que je suis un parent d'enfants avec handicap que je suis simplement parent d'enfants avec handicap. Ce n'est pas parce que je hausse la voix que je crie. Ce n'est pas parce que je suis en colère que je suis violent. Ce n'est pas parce que je pleure que je suis effondré. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je suis rebelle. Ne me définissez pas. Il y a une seule personne qui sait qui je suis, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je veux, c'est moi. Vous ne savez pas mieux que moi ce qui se passe dedans moi, ce que je veux, ce à quoi j'aspire, ce que je ressens. Vous ne savez pas. C'est une nécessité que je puisse me définir devant vous. Ça va dans les deux sens. Combien de fois, parce que je suis psychothérapeute, on me calque dessus une projection n'importe laquelle, quelle qu'elle soit. Mais je ne suis pas ce que vous croyez que je suis. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Dans la rencontre entre parents et puis soignants, il y a cette nécessité parfois d'aller au-delà de ces images-là pour pouvoir simplement se rencontrer, souvent humain à humain. Alors, on y arrive parfois, parfois non. Mais pour y arriver, il y a nécessité à la fois de se délester de nos oripeaux à nous, et nous aussi de ne pas accepter que l'autre mette sur nous une image. Vous avez le droit de dire stop, je ne suis pas comme vous croyez que je suis. Ce n'est pas vrai. Dernier besoin, il est un peu plus emblématique, mais il est aussi important. J'ai besoin, dans mon lien soignant-parent, de montrer, d'exprimer le sentiment d'amour. J'ai besoin de pouvoir nous dire combien on est attaché. Vous savez, je pense que vous vivez des choses comme moi, quand on est des fois avec des parents ou des familles, il y a des moments tellement intimes, tellement forts, tellement beaux. Des fois, on est sur des choses qui sont tellement sensibles. Franchement, il y a plein de moments qu'on ne vit jamais avec nos familles, qu'on ne vit pas avec des amis. Franchement, des fois, avec les gens, souvent, je m'ennuie. Je suis sûr que je ne suis pas le seul, je m'ennuie. Avec mes patients, jamais. Je ne m'ennuie pas avec eux. Parce qu'avec eux, on voit tout de suite à ce qu'il y a. Des fois, c'est un peu plus lent, mais au moins on est là pour aller au cœur. Et je vis souvent des choses dans mon métier que je ne vis pas dans ma vie amicale, sociale. Et souvent, quand je compare, je me dis waouh, c'est bien plus réjouissant pour moi, bien plus gratifiant, bien plus fort ce que mon métier m'apporte que ce que mes amitiés m'apportent, parfois, ou ma famille au sens large. J'adore les réunions de famille, c'est très sympa, mais je ne trouve sûrement pas l'intimité, la proximité que mon métier m'offre. Des fois, j'ai montré des choses de moi à mes patients, mais je n'ai jamais montré comment de ma famille. Ma famille me dirait waouh, waouh, ça va. Quand mes patients m'accueillent et voient ça, quand bien même je ne leur dis pas, je n'ai jamais trouvé chez autre personne une telle acuité de qui je suis. Même quand je ne parle pas de moi, ils me connaissent par cœur, ils me savent par cœur, ils me voient vivre devant eux, ils me voient, et en me voyant, on est dans une proximité de dingue. Il y a cette intimité qui est là. Entre un soignant et un parent, il y a la même intimité, il y a la même proximité. Quelque chose qu'on partage, qu'on retrouve vraiment très peu ailleurs. Alors il y a parfois et souvent la nécessité de pouvoir montrer le sentiment d'amour. C'est pas tu me plais, toi, on n'est pas là-dedans. C'est pas l'amour amoureux, c'est la tendresse, c'est l'affection, c'est la sympathie, c'est la chaleur. Une amie me disait il y a peu de temps qu'une maman me disait mais comment il faut que je vous appelle? Parce que vous êtes, pour moi, vous êtes comme une membre de la famille. Je peux vous appeler Tati? Elle a dit oui, bien sûr. Ok, voilà Tati. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais ça montre vraiment bien le lien de familiarité qui est ainsi installé. Une familiarité. Et je reprends parfois, je me sens bien plus en familiarité avec mes patients qu'avec d'autres personnes de mon entourage. J'ai cette familiarité-là. Ce que j'ai, vous pouvez vraiment l'avoir pareillement. Alors, leur façon parfois aux parents de nous montrer combien ils nous aiment, c'est aussi un point important, on imagine peu l'importance que nous avons. On imagine peu parfois la puissance de l'amour qui nous est porté. On imagine peu combien il y a des mères et des pères pour qui nous sommes la seule personne à qui ils parlent pour de vrai. On n'imagine pas qu'il y a des mères qui nous parlent comme elles n'ont jamais parlé à leur mari. Il y a des hommes qui nous montrent, qui n'ont jamais montré à leur femme. On n'imagine pas, alors que pour eux, on est vraiment quelqu'un d'absolument unique. Et on n'imagine pas alors combien cette unicité-là les conduit à nous aimer beaucoup. On mettra là-dedans les mots transfert, si vous voulez, mais je m'en fiche, pas mon problème, ils nous aiment. Et des fois, ils ont besoin de nous montrer. Mais c'est pareil pour nous. On ne va pas aimer tout le monde pareillement, mais il y a des mamans que vous aimez, que vous adorez. Il y a des papas qui vous touchent profondément, que vous emportez avec vous. Il y a besoin de pouvoir se dire. Quand un parent vous dit qu'il vous aime, ne répondez pas, oui, mais attention, c'est mon métier, c'est mon job, ça. On s'en fout de votre job. Quand je dis ça, je ne dis pas que j'aime mon métier. Je dis que j'aime qui tu es. J'aime comme tu es. J'aime ton regard. Ton regard, ce n'est pas la formation, c'est ton regard, ça. J'aime tes mots. J'aime le souci que tu as de moi. Ça, ce n'est pas mettre en fiche de poste, avoir le souci des parents. C'est quelque chose que vous avez en vous. Ce que j'aime, ce n'est pas vos compétences. Ce que j'aime, c'est qui vous êtes. Et quand je vous le dis, s'il vous plaît, apprenez cette chose si difficile que d'accepter l'amour pour vous. Ce que je dis paraît tout simple, mais bon sang, comme c'est difficile parfois d'oser accepter ces marques-là, cette démonstration et cette nécessité de pouvoir vous dire à leur façon, complètement, je vous aime. Et je parle bien de rapport parent-soignant. Je ne parle même pas des enfants. Alors là, tout ce que je dis est démultiplié par... En venant, je pensais... Au terme de ça, je pensais à un poème que j'aime beaucoup. Vraiment, je crois que c'est le poème le plus beau texte que je connaisse, le poème de Baudelaire. vous le dire, puis après vous montrer comment on peut le décliner. Baudelaire parle dans ce poème d'un oiseau qu'on appelle Albatros. Et il dit souvent, les hommes d'équipage prennent les albatros, vaste oiseau des mers. Et il explique combien ces oiseaux sont les compagnons indolents et qui suivent le navire au long cours. Il poursuit et il montre comment les marins chopent comme ça les albatros, puisque je vois ça, et il explique à peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Il explique, ce messager ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau comme il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Il dit, le poète est semblable au prince des nuées. Il poursuit en disant, qui hante les tempêtes et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Je me disais, si on remplace ça par un parent d'enfant handicapé, juste la fin, le parent est semblable au prince des nuées qui hante la tempête, et Dieu sait, en tant que parent, vous prenez la tempête, et se rit de l'archer. Dieu sait combien les colibets sont nombreux par rapport au handicap. Exilé sur le sol, et Dieu sait combien on se sent souvent seul comme parent. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. C'est tellement vrai. Tellement vrai, tellement de parents d'enfants handicapés sont conduits, parfois ils sont condamnés, c'est vrai, à développer de la patience, de la tendresse, du respect, de l'amour pour un enfant qui, initialement, n'est pas l'enfant que j'ai souhaité. Combien il faut que je développe des ailes incroyables pour pouvoir arriver à ça? Combien il faut que j'aille chercher en moi un trésor pour y arriver? Et après, à qui je vais montrer ça? Quel parent, qui va comprendre que, ben, si mon enfant, là, il a fait des petits chapeaux de sable, c'est formidable, hein, tu parles. Oui, mais tu ne sais pas par où je suis arrivé pour arriver à ça. Tu ne sais pas ce que j'ai développé comme trésor. Tu ne sais pas comment je m'y suis pris pour que mon petit garçon fasse ça. Il a 4 ans, il arrive à ça. Comment je peux montrer mes grandes ailes blanches? Elles sont là, elles traînent piteusement vers moi. C'est pareil pour le soignant. C'est la même chose. Combien de soignants, combien d'intervenants développent des petites choses toutes simples, toutes bêtes? En venant, une amie m'appelle, elle me raconte. Elle est dans une famille avec une maman, un enfant avec autisme. Et la maman n'en peut plus de ce poulard, plus de ce gamin. Elle dit, j'arrive à rien avec lui. Elle est agacée. Ça fait des années qu'elle essaye. Le gamin tourne comme ça en rond, elle ne fait rien. Elle est omnubilée par ça, il n'est pas constant. Alors, un jour, elle arrive avec du sable. Avec du sable. Elle met du sable sur la terrasse, il fait chaud. Et le gamin vient et dit au bout, en une heure, elle a réussi à faire en sorte que le gamin, comme ça, il fasse des châteaux de sable. Elle en a fait 10, 11 et 12 châteaux de sable en une heure. La maman était là au début avec eux, et après elle s'est reculée, il était trop chaud. Elle nous dit, elle est derrière la fenêtre, derrière les rideaux, seuls ses pieds dépassent. Elle nous regarde faire, Et puis, la semaine suivante, je reviens, et puis je lui dis, maintenant, c'est à vous de faire. Dis alors la maman, comme ça, elle a fait avec son enfant, c'était maladroit, c'était pas adéquat, mais elle a fait avec son enfant du château de sable. Elle dit, il y a eu ce moment, après chaque château de sable, où les deux se sont regardés comme ça. Ils étaient fiers. Elle de lui, lui C'est rien. C'est absolument rien. Mon ami, il me disait, tu vois, ça, je le dis à personne. À qui je vais raconter que tu peux faire en sorte que cette maman-là et son fils soient fiers l'un de l'autre. Enfin, elle aussi, vous savez, ses grandes ailes blanches posées sur le plancher du navire, et puis, comment elle va pouvoir voler? Qui va voir ça? On la voit comme une albatros. On voit juste qu'elle est sur un plancher. On ne sait pas le vol de l'albatros. On ne voit pas. Et ce gamin. On peut mettre aussi l'enfant. Si on peut mettre le parent, l'albatros. On peut mettre le soignant, l'albatros. On peut mettre aussi l'enfant, l'albatros. L'enfant aussi est semblable au prince des nuées. Lui aussi hante la tempête. Lui aussi se rit de l'arche. Lui aussi se sent tellement exilé sur ce sol au milieu des nuées. Et lui aussi, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Mon sang, regardez l'autisme, c'est ça. Être un enfant avec autisme, c'est ça. Voir des ailes de géant qui nous empêchent de marcher. On est au même endroit. Et quand je pensais à ça, je pensais à ma fille, qui m'a envoyé avant-hier une petite vidéo qu'elle a prise avec son portable. C'est mon petit-fils, mais je suis grand-père en plus, ça ne marche pas. Qui a bientôt deux ans. Et puis, elle l'a filmé, ça dure 10 secondes. Il aurait 2 ans, moins de 9 ans. Il est sur un tabouret. Et lui dit, alors tu veux faire quoi? Il lui dit, il est presque un mètre, il lui dit, maman, je vais venir vers toi. Elle dit, vas-y, viens, saute. Il saute, il tombe et il pleure. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas voler. Je ne sais pas voler, maman. Il lui dit, mon chéri, c'est normal. Non, maman, je ne sais pas voler. Et ça, c'est magnifique. Beaucoup d'enfants que vous suivez, vraiment, sont comme l'albatros. Beaucoup de parents, beaucoup de soignants. Juste parfois, ils sont vus comme étant sur des planches. On ne les voit pas en train de voler. Quand, en tant que soignant, nous agaçons les becs des parents, quand nous les mimons, riant d'eux en mimant l'infirme qui volait, quand les parents agacent le brûle-gueule des soignants, et quand, à leur tour aussi, parfois, en tant que parents, nous venons mimer pareillement le soignant infirme qui volait. Quand nous sommes hommes d'équipage et albatros, la relation ne fonctionne pas. Mais si vous saviez, bon sang, et ça c'est la finalité, combien souvent nous sommes pareillement albatros. Parfois c'est difficile de s'envoler. Parfois il faut prendre l'albatros, il faut le porter pour qu'il marche. S'envole. Mais c'est bien plus facile de faire ça à deux. Un partenariat entre parents et puis soignants, c'est être comme deux albatros avec leurs deux grandes ailes blanches qui traînent au sol et qui se disent si on regardait comment on peut s'envoler ensemble. C'est ce que je vous souhaite vraiment, de continuer à voler. Merci beaucoup.